Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Nous sommes lundi 27 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Ce matin, ciel couvert, c'est pas mal nuageux. 60 % de probabilité d'averse aujourd'hui. Température autour de 21 degrés. Et on prévoit que pour la nuit prochaine, le ciel va demeurer un petit peu nuageux. Température autour de 8 degrés, donc les nuits nettement plus fraîches depuis déjà quelques jours. Et pour le reste de la semaine, on prévoit du soleil, quelques nuages, mais vraiment une très, très belle semaine. Il n'y a pas de pluie à l'horizon. Et de mardi jusqu'à vendredi, les températures vont varier entre 15, 16, 17 degrés, des nuits autour de 7 à 8 degrés. On vient de voir avec Bénédicte encore des coups de feu, encore des gens qui perdent la vie. C'est extrêmement préoccupant. On le dit souvent depuis les dernières semaines. C'est un enjeu de la campagne électorale. C'est pour ça ce matin qu'on va recevoir Denis Coderre, Valérie Plante pour débattre strictement de l'enjeu de la sécurité. Madame Plante a annoncé un programme qui touche non seulement la police, mais également l'implication communautaire. On connaît les positions de Denis Coderre également sur l'importance de la sécurité et de sa volonté de rendre Montréal plus, sécuritaire, en tout cas pour que les gens se sentent bien dans cette ville. Et je pense qu'il y a des quartiers, tu sais, le sud-ouest en fin de semaine, Rivière-des-Prairies encore, puis vous allez voir cette semaine, on va avoir d'autres cas. C'est sûr que ce que la police a annoncé avec l'opération Centaure, c'est probablement l'annonce la plus sérieuse. Quand on vise les territoires des Mohawks, Akwesasinés, porte d'entrée des armes à feu, mais aussi il y a une pression qui doit être exercée sur le fédéral sur les sentences pour possession de ces armes interdites. Parce que l'enjeu, c'est pas tant les armes légales, on s'entend, là. Les gangs de rue, ça se promène pas avec un permis de port d'armes ou avec un permis de chasseur, là. C'est des gens qui utilisent des armes qui viennent du marché noir. Et ça prend, je pense, des mesures nettement plus sévères, des peines beaucoup plus sévères. L'autre volet aussi qu'il faut considérer, c'est le travail des policiers. Il ne faut pas minimiser l'importance d'avoir une vie de quartier puis des intervenants et d'établir des relations avec l'ensemble des citoyens et la police. Mais vous avez vu J.E. C'est vendredi, les policiers qui disent hésiter, puis c'est pas la première fois qu'on entend ça, qui sont nerveux, qui sont inquiets, qui veulent pas se ramasser en déontologie, qui veulent pas faire l'objet de plaintes. Puis de l'autre côté, ben vous avez des citoyens, par exemple, de la communauté haïtienne, qui disent, puis on voit à Repentigny, là, ça s'est encore ajouté avec le rapport qui a été rendu public la semaine dernière sur le racisme au sein de la police, puis la police qui dit, ben on va faire les changements. Fait que cette espèce d'équilibre entre « je te respecte, mais j'ai une job à faire », pas facile à trouver. Donc, paquet d'enjeux concernant, l'enjeu de la sécurité à Montréal. Maintenant, parlons un peu de COVID. D'abord, je veux revenir, moi, sur le tableau. Les chiffres disponibles datent de quelques jours, mais en gros, là, on arrive à pas loin de 90 % des Québécois qui ont reçu au moins une dose. 83 % et plus, là. On va toucher le 85 % des gens qui vont avoir obtenu les deux doses. Ce qui est, là, on va se le dire franchement, spectaculaire comme résultat. Comparé dans le monde, là, c'est quand même impressionnant. Pour ce qui est de l'impact des non-vaccinés sur le réseau de la santé, c'est plus que clair. Les non-vaccinés ont 33 fois plus de chances de se ramasser à l'hôpital que quelqu'un qui est vacciné. Quand vous regardez les chiffres, par exemple, puis quand vous tenez compte que vous avez quand même 84 % des gens de vaccinés, je prends la période de 28 jours, là, 475 sur 644 sont des gens qui ne sont pas vaccinés ou qui ont strictement la première dose. Fait que ça parle tout seul. Dans le cas des enfants, on peut lire ce matin dans le Globe and Mail que on est inquiet de voir le nombre de cas chez les enfants. On l'a vu au Québec, là, les éclosions dans des garderies, des éclosions dans des écoles, fermetures. Et ce que souligne le Globe and Mail ce matin, c'est que les enfants qui ont été les plus durement touchés par la COVID sont des enfants qui avaient des problèmes de santé avant. Et que ces enfants-là, par exemple, des problèmes pulmonaires, problèmes d'embonpoint, ou certaines maladies, et eux ont été plus touchés. Parce que la plupart des enfants n'ont pas eu beaucoup de symptômes. Pratiquement pas. Sauf que là, on craint qu'avec l'augmentation du nombre de cas chez les enfants, ça pourrait, puis la force du variant, ça pourrait faire en sorte qu'on se retrouve avec un nombre plus élevé d'enfants touchés. Puis là, ça amène la question. J'ai encore des gens qui m'écrivent ce matin. Il y a un cas d'une garderie. Une travailleuse qui refuse d'être vaccinée puis qui le dit clairement. Elle a la COVID. Puis là, t'as l'effet domino sur les enfants puis sur les parents. On a eu cette enseignante également. Alors, est-ce qu'on doit penser à exiger le passeport vaccinal? Si on le fait pour la santé, pour les travailleurs, là, on a vu le décret vendredi, si on le fait pour le gym, si on le fait pour le restaurant, est-ce qu'on doit penser à le faire en éducation? Et vous serez peut-être d'accord pour dire avec moi que santé publique et éducation, c'est d'une lenteur déconcertante. Lenteur sur les tests rapides, lenteur... Je regardais ce matin, là, on nous explique que finalement, les premiers appareils de CO2, de lecture, vont être déployés dans les écoles. Ils arrivent, là. Imaginez-vous l'espace-temps qu'on a perdu avec ça. Et donc, comment on peut améliorer, je dirais, le coffre à outils pour les écoles au Québec. Donc, il y a un enjeu encore qu'il faut souligner, celui du réseau de la santé, l'appel qui a été lancé la semaine dernière. Ça va être reçu comment? Là, je comprends, là, je vois encore ce matin, puis on le disait la semaine dernière, tous les travailleurs et travailleuses du réseau de la santé qui n'ont pas le boni sont en tabarouette parce qu'ils et elles se disent « Moi aussi, je suis important, puis moi aussi, j'ai été exposé, puis moi aussi, je fais du temps supplémentaire obligatoire. » C'est sûr. Mais le manque criant se trouve auprès des quatre catégories, là, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalo et bon. Alors, est-ce que l'appel va être entendu? Puis l'autre question qu'on doit se poser, c'est quel est le rôle des syndicats? J'ai vu des messages passer de la CSN en fin de semaine. Ça sent pas l'appel à la discussion, là. Ça sent l'appel bien plus à une forme de confrontation. Tu sais, quand tu compares le gouvernement à un homme qui bat sa femme puis qui vient s'excuser, c'est un peu gros. Puis je comprends là, qu'il y a eu des abus de TSO, là, de temps supplémentaire obligatoire. Mais c'est quoi la solution? Moi, je le sais pas, là. Mais comment on peut pas, comme on dit, virer le paquebot, faire danser le mammouth en l'espace de deux, trois mois? Comment je fais pour vous donner à vous autres dans le réseau de la santé des meilleures conditions, que ça soit prévisible, une qualité de vie, si c'est pas par l'arrivée de nouveaux employés puis d'être capable de combler les postes? Ça passe comment, par où? Puis je le sais, là, que les deux sont intimement liés. Plus il y a de gens qui vont revenir, plus ça va être facile de gérer. Et surtout, c'est un autre défi, ça prend un changement de culture dans la bureaucratie de la santé. C'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. D'avoir une approche qui n'est pas d'une machine sans émotion, centralisée, puis sans respect pour le personnel qui y travaille. Ça, là, c'est bien plus important que les bonnies. Pour la plupart des gens qui ont. Alors, on va être à suivre au cours de la semaine comment cette campagne de recrutement va évoluer. Un dernier petit point sur les mesures sanitaires. Il y a des parents qui m'ont écrit en fin de semaine à propos de l'utilisation du micro-ondes dans les écoles. Et la mère qui m'écrit habite la région des Laurentides Et elle reçoit l'avis comme quoi, ben, il n'y en a pas de micro-ondes à l'école, point final, puis que tu as le choix, c'est le thermos ou le repas froid. Bon. Puis elle a un enfant pour qui ça a l'air qu'il y a un certain nombre d'enjeux alimentaires plus compliqués. Alors, on a vérifié auprès du 6 des Laurentides pour savoir c'est quoi la politique. Ben, la politique, elle varie d'une école à l'autre. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre coin, mais si une école, si une école juge qu'elle est capable d'assurer la propreté et la sécurité de l'utilisation du micro-ondes, go. Donc, c'est pas une interdiction en soi, le micro-ondes. Toutefois, si l'école voisine ne s'estime pas capable de nettoyer l'appareil et le désinfecter entre chaque élève, elle est dans son droit d'en interdire l'utilisation. Alors, ça dépend de l'école. Ça dépend de la capacité de l'école de désinfecter, comme on le fait quand on rentre, par exemple, dans un magasin ou quand ici, on a des surfaces de travail entre les équipes, on nettoie. Pis tout. Alors, est-ce que c'est réalistement pensable pour les écoles? Ça a l'air que dans des cas, oui, parce que le micro-ondes est autorisé, mais dans d'autres cas, il ne l'est pas. On va parler de justice également beaucoup ce matin. Pierre Craig sera avec nous. Il présente ce documentaire. C'est mercredi. C'est présenté à 20h à Télé-Québec et ça s'appelle Le procès. Je l'ai regardé, c'est intéressant et ça résume très bien la problématique. Et en passant, s'il y en a un qui a l'air fou là-dedans, c'est le bâtonnier du Québec. Sérieusement, là, t'as un malaise à le voir répondre. Parce que le barreau, là, comme dit la juge Saint-Louis à la retraite, le barreau du Québec a deux objectifs dans la vie. Représenter ses membres, puis en même temps défendre le public. Peux-tu dire que ça défend pas trop fort l'accès à la justice pour la classe moyenne? Mais on va en reparler. Et ce que Pierre Craig nous montre dans ce reportage, ce documentaire, c'est les différents types de causes où le citoyen de classe moyenne, pas le pauvre qui a accès à l'aide juridique, puis pas le riche qui peut se payer des avocats à l'heure, mais des gens qui ont, tu sais, la famille moyenne, le premier cas qui est présenté, c'est un problème d'habitation, c'est un problème avec un constructeur. La job est mal faite. Puis il y a une spirale de coûts qui s'active. Puis là, tu prends un avocat à l'heure, puis ça avance pas. C'est un exemple, une cause de divorce, une bataille avec les propriétaires d'un site d'enfouissement. Autrement dit, est-ce que pour un citoyen de classe moyenne, c'est possible d'avoir justice au Québec? Puis la réponse, malheureusement, c'est non. Dans certains cas, peut-être, mais d'aller vous représenter vous-même face à des avocats, de payer des avocats à l'heure, de ne pas avoir beaucoup d'accès à des services de conseil puis à des avis à bas prix parce que, pour reprendre l'expression consacrée, les avocats protègent leur turf, ils veulent pas de compétition, puis vous allez le voir dans le documentaire. Donc, on vous parle de ça ce matin. Et aussi de cette annonce qui est sortie vendredi, alors qu'il y a un règlement qui a été conclu entre Options consommateurs et Meubles Léon, Brick, Bro et Martineau, Economax et Ameublement Tanguay. C'était quoi le litige? Ben, ça portait évidemment sur cette pub « Acheter maintenant, payer plus tard », le règlement qui doit être approuvé par la Cour, pas loin de 1,5 million. Et là, les gens étaient assez contrariés parce qu'ils ont reçu une note leur disant que, suite à l'entente, il n'y aura pas de montant versé aux personnes qui font partie du recours collectif. L'argent va où? 25% aux avocats. Et le reste va être versé à la Fondation pour les consommateurs. Alors là, premier effet, tu disais un peu, là. Pourquoi j'ai pas un sou de ce recours collectif? Réponse, il y a plus de 700 000 personnes qui sont touchées par ce recours, par cette action collective. Ce qui fait qu'en gros, c'est à peu près 2$ par personne. Puis enlever les frais d'avocat, le pourcentage, bien, c'est sûr qu'il ne reste pas grand-chose. On peut vous faire un chèque d'une pièce et 12. Donc, ils décident de garder l'argent. Ce qui est important de dire, je pense, c'est que ce recours a permis de changer des pratiques commerciales qui étaient à l'encontre de la loi de la protection du consommateur. Tu sais, tu peux pas faire en même temps de la pub sur un frigo à rabais et sur les stratégies de financement. Et au moins, l'impact, c'est que les Brault et Martineau de ce monde, les Ameublements Tanguay, les Meubles Léon, ont finalement retiré la pub qui dit « Achetez ce frigo en spécial, ne payez rien d'ici 12 mois ». Alors, ça au moins, on peut dire que c'est une victoire importante pour le consommateur. Maintenant, vous lirez ça ce matin, un coin que je connais un peu quand même, Sainte-Julie, l'ancien champ de tir du ministère de la Défense, c'est Vincent Larouche qui nous raconte ça. C'est un immense territoire agricole. C'est vraiment là, peut-être un des grands, grands espaces de la Montérégie qui n'est pas en développement. C'est protégé. Et cet ancien champ de tir est convoité. Convoité, d'une part, par des promoteurs immobiliers, par des producteurs agricoles qui l'opèrent, puis vous allez comprendre pourquoi après. Mais même les environnementalistes disent que c'est un dossier majeur. On fait quoi avec ce terrain-là? C'est à côté Sainte-Julie, Saint-Bruno, Saint-Basile. Et Vincent Larouche nous apprend que les propriétaires de ces terrains, appelons ça, des gens membres directement ou indirectement de la toile d'araignée de la mafia. Et là, vous avez la liste complète. Rénal Desjardins, les familles Mano, Lopresti, Michelli ont été impliqués dans des transactions. Et ce sont souvent la deuxième génération qui se retrouve. Par exemple, il y a le frère et la belle-mère de Giuseppe Renda. Vous avez également Domenico Arcuri, qui est un peu indirectement mêlé à ça par un de ses associés. Bref, il y a beaucoup de gens, puis vous comprendrez qu'ils ne font pas ça pour développer des terres agricoles. Rénal Desjardins, ça fait des lunes, qui est un des propriétaires. Alors, comment va se faire le partage, puis quel est l'avenir de ces terrains? C'est intéressant quand même à suivre ce matin. Aussi, ben, on va vous parler des deux molécules qui ont été libérées en fin de semaine. Quel sera l'impact sur les relations entre la Chine et le Canada? Jean-François Lépine sera avec nous. Ce qu'il faut dire, c'est que la Chine, et la preuve est très claire, n'est pas un état de droit. La Chine a tenu, a fait d'abord des arrestations politiques, a tenu des procès bidons politiques et a négocié comme on négocie la libération de prisonniers politiques, le sort de l'héritière de Huawei et des deux Michael qui sont revenus dans la nuit de vendredi à samedi. C'est sûr que quand on compare avec les États-Unis, par exemple, les relations, les échanges commerciaux entre la Chine et le Canada, c'est un pourcentage nettement moindre. Mais comment la relation entre le Canada et la Chine sera affectée par ce geste posé par les Chinois dont on mesure la vraie nature? Est-ce qu'on a besoin d'une démonstration additionnelle? Peut-être pas, mais en tout cas, celle-là, elle est très claire. Puis on écoutait en fin de semaine Marc Garneau, qui est toujours assez flou, puis qui est demeuré assez flou. Tu sais, la phrase, ben, on va faire affaire avec la Chine quand on a intérêt à le faire. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? La question des changements climatiques, peut-être, mais des ententes commerciales. Et l'autre chose qui n'est pas à dédaigner, il y a quelqu'un qui m'a écrit en fin de semaine qui fait affaire avec la Chine, puis qui, en temps normal, là, doit se rendre en Chine 3, 4, 5 fois par année. Puis, il se dit, est-ce que je peux me faire arrêter arbitrairement par les autorités chinoises parce que j'arrive en Chine dans un mauvais contexte politique, parce que les relations... La réponse, oui. On voit qu'ils sont capables d'inventer des accusations puis de tenir des procès qui relèvent de la pièce de théâtre plus qu'autre chose. Alors, Jean-François Lépine sera avec nous pour en parler tantôt.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Encore des coups de feu en fin de semaine à Montréal, encore des balles perdues. Deux personnes sont décédées. Premier cas dans le sud-ouest, La Salle. Cas également à Rivière-des-Prairies. Et on avait convenu d'organiser un débat ce matin entre les principaux candidats, candidates à la mairie de Montréal sur l'enjeu de la sécurité. Je vous les présente. Valérie Plante est avec nous. Bonjour, Mme Plante.
Bonjour.
Et Denis Coderre. Bonjour, M. Coderre.
M. Arcand.
Avant de parler de sécurité, il faut que je vous parle de baseball parce que la nouvelle s'est imposée ce matin. Semble-t-il que tous les fils sont attachés. Le propriétaire de Tampa Bay dit après les élections, on va faire une grande annonce. Il y aura un nouveau stade au centre-ville de Montréal. Je commence avec vous, Mme Plante. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? C'est vrai ou pas?
Bien, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, pour nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que le retour du baseball, c'est une bonne chose. Ceci étant dit, il faut s'assurer que ce n'est pas les Montréalais qui vont payer pour le nouveau stade. Alors, on s'est entendu, M. Brofman et moi, dès le début du mandat, et c'est toujours la ligne qu'on a tenue. Mais nécessairement, cette annonce-là, on la fera en temps et lieu, mais on a bien hâte de la faire.
Donc, il y a un règlement, donc il y a une entente avec Tampa Bay, c'est ce que vous me dites?
Vous comprendrez bien, moi je dis toujours, c'est pas la Ville de Montréal qui est le promoteur, donc je vais leur laisser le plaisir, parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus, M. Brofman puis son équipe, là. Enfin, alors on va les laisser faire l'annonce quand ils seront prêts.
Coderre.
On n'aura pas le syndrome des Nordiques à matin, là. Ça s'en vient. Je pense que la première étape, c'est je veux entendre ce que Québec a à dire, parce que c'est clair que M. Brofman a toujours dit que les Montréalais ne paieraient pas pour le stade, mais qui allait du côté du gouvernement du Québec. Fait qu'on est mieux d'attendre avant de se réjouir. Je réagirai qu'en Québec, mais pour moi, l'important, encore une fois, c'est de sortir de la pandémie. C'est pas la priorité pour l'instant. C'est sûr que j'aime le baseball et je souhaite que ça puisse arriver, mais il y a beaucoup d'étapes à franchir encore. Là.
Mais j'essaie juste de comprendre, là. Est-ce qu'il y a une entente pour un stade au centre-ville de Montréal? Est-ce que M. Brofman vous dit on a attaché les fils pour un stade? Êtes-vous au courant s'il y a un stade qui va être construit?
Bien, comment ça fonctionne, c'est que ce terrain-là appartient toujours à la SIC, au gouvernement fédéral. Alors, il faut que tout... Il n'y a pas de projet qui a été mis sur la table par M. Brofman. Évidemment, on a vu, j'ai eu la chance de voir ce qu'ils ils aimeraient mettre en place, mais on s'entend qu'il y a toute une mécanique de règlement, de déposer un projet. Donc, tout ça doit se mettre en branle, alors.
Faudrait peut-être s'assurer que quand il y a on parle de l'avenir du bassin Peel, qu'on puisse aussi les inviter, parce qu'il y a eu quand même des rencontres qui auraient été faites, mais les promoteurs étaient même pas invités à cette table-là. Donc, on va laisser le temps au temps, là, mais on va voir ce qui va arriver. Okay. Mais si Québec met pas d'argent là-dedans, il y aura pas de stade. Là.
OK. Je vous demande peut-être de compter.
Les attaques commencent fort ce matin. Donc, nous, on suit vraiment, on fait le due diligence, on suit les étapes. Et dans le cas du stade, concernant le fait qu'il n'y avait pas de projet de déposer, nous, M. Brofman, on l'a rencontré en bonne et due forme, mais on donne pas de privilèges quand il n'y a rien qui est déposé en bonne et due forme. On prend pas des deals derrière des portes closes, là, au final. Là.
On va passer à l'enjeu de la sécurité. Ouais. Québec, oui?
Non, c'est ça, okay. c'est plus important.
Québec a présenté sa nouvelle escouade de mix, le projet Centaure, pour faire face aux crimes, trafic des armes à feu. Est-ce que, je vais commencer avec M. Coderre, vous êtes satisfait du plan de Québec? Est-ce qu'il peut faire plus? C'est quoi votre position là-dessus?
Ben, je trouve intéressant cette approche, sauf qu'encore une fois, sur le 90 millions, il y en a 910 000 seulement à Montréal et 72 % des coups de feu arrivent à Montréal. Donc, oui, Québec joue son rôle, mais malheureusement, le manque de leadership actuel à la ville fait en sorte que on n'est pas là. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est la Sûreté du Québec qui est en avant quand tout ce qui touche les gangs de rue, c'est vraiment une expertise de SPVM. Donc, il faut travailler plus en conséquence au niveau de la SPVM.
Madame Plante.
Bien, en fait, pour répondre à votre question, moi, je suis très satisfaite parce que, comme on l'a vu pendant la guerre des motards, c'était vraiment une action concertée. Donc, moi, je suis pas dans une approche de « je tire la couverte, qui a le plus le beau rôle ». Non, non, on travaille ensemble. Et c'est ce qu'on fait avec le gouvernement du Québec, qu'on fait avec la SQ, les Peacekeepers, le SPVM. C'est vraiment une action concertée. Et ça va venir nous aider à gérer l'ensemble du trafic parce que la Ville de Montréal prend ses responsabilités. On le fait depuis le début d'investir les sommes au bon endroit, mais ça dépasse la Ville de Montréal. Alors moi, je suis très heureuse qu'on ait cette action forte, concertée, responsable, puis globale. Le seul acteur qui manque autour de la table, selon moi, c'est le fédéral concernant les frontières, parce qu'entre autres, là, les armes, elles rentrent très, très facilement au pays, puis ça, c'est inacceptable. Alors, mieux contrôler les frontières, mais également bannir les armes de poing, parce que c'est ça qui circule dans les rues en ce moment.
Écoutez, dans la foulée d'un carcajou 2.0, je peux comprendre, on a besoin d'un partenariat. C'est sûr qu'il y a un travail qui doit se faire, mais on doit avant tout aussi combattre le crime d'où il vient. Il faut combattre la criminalité. C'est pas juste la question de l'arme comme telle. Et en ce sens, le manque d'effectifs. Regardez encore à Montréal-Nord, il y a il y a eu des problèmes, il y a eu plein de coups de feu. Puis le problème, c'est que l'ADN même du SPVM est entaché présentement. Vous avez vu à GIA, il y a 3 policiers sur 4 qui ont même peur d'intervenir ou qui veulent pas puis qui ont le moral à terre. Donc, toute la question de l'intervention du crime, ça, c'est la responsabilité de la ville.
On va y revenir plus en détail. Question pour vous, Mme Plante. On a l'impression que vous arrivez là parce que c'est un sujet hot, mais que la police a été négligée pendant vos 3 années et demie, là, si on veut, à la tête de la ville de Montréal, puis que là, on est en mode rattrapage. Puis même, qu'est-ce qu'on fait, là? Ça compte pas tous les départs à la retraite puis les postes vacants.
Écoutez, moi, c'est sûr, je vais vous dire que je suis complètement en désaccord parce qu'il faut savoir que quand on est arrivé, nous, on a décidé de refinancer. Il y avait eu une coupure de 34 millions dans l'ancienne administration. Nous, on a renfloué de 27 millions.
L'ancienne administration, c'est lui, là.
Oui, oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, vous savez, nous, on s'adapte. Il y a 18 mois, là, les policiers et policières étaient sur le terrain à gérer une pandémie. Entre autres, ils géraient un couvre-feu. Quand le chef de police s'est assis avec moi, je vous dirais autour du mois de décembre, en disant, Mme Plante, on pense qu'il va y avoir une recrudescence des crimes avec des armes à feu comme on voit dans d'autres villes. On s'est assis puis on a créé ELTA. C'est ça qu'on fait. Alors, on agit de façon responsable. Et après ça, quand est arrivé les groupes criminalisés, encore une fois, il y avait eu une coupure d'effectifs de 30 % dans l'ancien mandat. Nous, on a dit, OK, on en rajoute. Alors, j'aimerais dire que bon an, mal an, c'est entre 120 et 180 policiers qu'on a ajoutés chaque année. Et là, on est rendu à 220, mais on suit les demandes du SPVM. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y en a qui vont vouloir dire qu'on faire peur aux gens, mais on agit de façon responsable au bon moment et en concertation, okay. Je le rappelle.
Je veux vous remercier du débat parce que probablement ce débat-là a provoqué l'annonce de Mme Plante. Là, ça a tout l'air d'une vocation tardive. La réalité, là, c'est qu'il n'y a jamais eu de coupure de 34 millions de dollars. C'était 2 % par année, puis c'était des augmentations de salaire qu'on a payées rétroactivement quand on a signé l'entente avec la Fraternité des policiers, l'entente de convention collective de pendant 7 ans. La réalité, c'est que il manque des effectifs. Vous savez pertinemment qu'il y a eu des déplacements de policiers d'une place à l'autre, puis on est en train de les brûler. Il manque 253 policiers. À l'époque, même en 2017, il y avait 84 policiers de plus. Moi, là, ce que je pense qui est important, c'est qu'on va probablement parler de son annonce, là, de son opération de relations publiques. Problème, encore une fois, c'est qu'on voit le policier seulement comme l'élément de répression. Et puis, actuellement, si on n'a pas cette police communautaire qui vit dans son milieu puis qui contribue à la prévention, ben ça donne ce que ça donne présentement. C'est de la poudre aux yeux. On n'avait pas d'argent à l'époque. On disait que c'était suffisant. Puis là, on nous arrive avec 110 millions. Puis j'aimerais savoir comment qu'on va payer le déficit parce qu'il est entre 40 et 70 millions.
Mais Monsieur Arcand, c'est incroyable hein, parce que je peux pas m'empêcher de le dire. J'ai le candidat à la mairie. Je veux dire, à part chialer, qu'est-ce que vous proposez, M. Connard? C'est impressionnant parce que, vous savez, moi, je fais des annonces au bon moment. De la même façon qu'on a parlé d'habitation rapidement et de sécurité publique, on présente nos éléments. Moi, je ne vais pas m'excuser d'être proactive et de garantir le financement des policiers pour les 4 prochaines années. Mais il est où votre plan, M. Coderre? Tu sais, c'est quoi que vous avez de constructif à dire? Parce que c'est seulement du négatif qu'on entend.
Non, mais je veux remercier Mme Plante de son annonce parce qu'elle vient de se rendre compte que la sécurité est entachée à Montréal. Il faut travailler en ce sens-là. Le plan, c'est pas compliqué. C'est qu'il faut donner les effectifs, il faut aller donner des outils à l'enquête. On peut travailler en collaboration avec la Sûreté du Québec et puis avec les autres corps policiers, mais on a besoin de réorganiser au niveau des opérations. À l'époque, puis ça a été coupé en 2019, on avait le département des crimes contre la violence, donc de mettre les stupéfiants avec la question des gangs de rue. Donc ça, c'est un élément. Contrairement à Madame Plante, nous, on pense qu'il faut avoir des caméras portatives. On n'a pas soufflé le chaud et le froid sur le désarmement et le définancement. Ce qui est important pour nous, c'est de donner les effectifs pour que les policiers puissent retrouver cette quiétude. Là, présentement, vous avez juste au poste 21 au centre-ville, là, on oblige les policiers 4 par semaine à faire du temps supplémentaire. Ils sont brûlés, ils travaillent 16 heures. Alors, donc, il faut redonner les lettres de noblesse aux policiers.
C'est quoi le plan concret? Parce que vous dites des phrases, mais qu'est-ce que c'est?
Ça veut dire qu'on va, on va s'assurer.
Les effectifs, les montants, c'est quoi que vous allez mettre sur la table?
Ah, le montant, bon, on va le sortir, inquiétez-vous pas, parce que présentement, ce qui est important, ça aurait coûté 15 millions par année, Mme Plante, pour régler le problème actuellement. Puis au lieu de ça, ben là, on arrive avec des vœux pieux par la suite de 110
millions. Mais là, il y a un constat, il manque de patrouilleurs, il manque une présence policière.
Les gens
partent à la retraite, tous les postes, on va combler. M. Caron nous disait, bon an, mal an, il y a un roulement de 400-500 policiers facile.
Puis un déficit.
Bon. Mais là, la question que les gens se posent en vous écoutant ce matin, là, il y a Valérie Plante, puis il y a Denis Coderre. Comme citoyen de Montréal, là, qui est la personne la mieux placée pour me garantir une présence policière plus importante, puis un plan là, avec le communautaire pour faire face aux armes, aux crimes puis aux coups de feu. Expliquez-moi pourquoi, Mme Plante, ça serait vous la meilleure personne.
Bien, parce que nous, on l'a toujours vu de façon globale et responsable. On n'arrive pas avec des éléments à la pièce. Donc, on a toujours travaillé, et ce, même avant la pandémie puis la montée de la violence actuelle, on a toujours travaillé, par exemple, avec le trafic d'armes. Ça, c'est la leadership de Montréal, d'ailleurs, qui a mis ce sujet-là sur la map pendant la dernière campagne électorale. Vous vous souvenez, j'étais avec d'autres maires de d'autres villes du Québec. Donc, la lutte au trafic d'armes, la question du crime, des groupes criminalisés, mais aussi tout le travail qui se fait au milieu dans le communautaire avec les groupes qui font de la prévention.
Okay.
Et dans le plan qu'on a annoncé samedi, c'est vraiment de venir renforcer notre police de quartier, qui est extrêmement précieuse, et on va entrer, on veut jaser avec le syndicat, n'est-ce pas, des policiers et policières, pour voir comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que les policiers restent plus longtemps au même endroit, surtout dans les coins chauds, parce qu'on sait que ça rassure la population, ça fait une présence, il y a plus d'effectifs qui restent au même endroit, alors ce travail-là va se faire.
M. Coderre, vous serez le meilleur pour assurer la sécurité des Montréalais.
Le président du syndicat, j'attendrai pas 3 ans et demi avant de le rencontrer puis tout d'un coup dire que je m'intéresse à la sécurité. La sécurité, pour moi, c'est important parce que le vivre ensemble n'est plus là présentement. Le vivre ensemble, c'est l'ouverture et la vigilance. L'agenda de vigilance, c'est de redonner les lettres de noblesse aux policiers, leur redonner les outils nécessaires pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Pas travailler d'un côté le social, de l'autre côté le policier. Il faut s'assurer qu'on travaille tous ensemble. On a besoin aussi de repenser la gouvernance. Il faut que le directeur de police soit aussi directeur général adjoint pour qu'il puisse travailler en collaboration dans le processus décisionnel budgétaire. On n'a pas à s'occuper des opérations policières, mais on doit leur donner les outils pour le faire. Il faut aussi croire à la sécurité. Quand on présente des candidats qui croient au définancement puis au désarmement, ça, c'est un problème en soi. Alors, pour moi, je pense que non seulement j'y crois, les gens le savent que je suis une personne sur le terrain. On a Abdel Sari qui fait un travail formidable. On va doter des outils comme les caméras portatives aux policiers pour qu'ils puissent avoir ce contrepoids-là, mais on va surtout leur donner l'argent nécessaire. Et puis, il faut aussi bien dépenser en conséquence.
OK. Soyons aussi pratiques. JA nous présente, c'est pas une révélation, là, des témoignages de policiers qui lèvent le pied, qui hésitent, qui ont peur de se retrouver en déontologie. Des policiers qui disent qu'il y a de la patrouille à découvert, c'est-à-dire qu'on prend des policiers d'un autre poste de quartier puis on l'envoie dans des secteurs plus chauds, là. Vous dites quoi des policiers qui disent « Moi, j'irai pas me mettre ma carrière sur la bûche parce que je vais me faire accuser puis je vais payer pour ça. Je préfère lever le pied puis je réponds quand il y a un appel d'urgence, Madame Plante. »
Mais ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. On veut pas qu'ils se produisent. Les
mais là,
policiers,
c'est ce
policières,
qui se
produit. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'on doit, c'est les rassurer que dans un, ils doivent faire leur travail, qu'on les soutient là-dedans. Puis c'est de mettre en place des outils pour les protéger eux, puis protéger la population. Donc, la politique d'interpellation qu'on a mis en place, c'est une première au Québec, qu'on travaille avec le SPVM, bien sûr, ça vise justement à les protéger. Ensuite, tout ce qui touche les caméras portatives, de mettre en place un projet qui, lui, va tenir la route, parce qu'on travaille encore en concertation avec le gouvernement du Québec. Moi, je pense que ça, c'est important pour que les preuves soient disponibles en cours. Alors, le message que moi, je dis aux policiers et policières quand je les rencontre, c'est faites votre travail, on a besoin de vous parce que c'est eux la clé sur le terrain pour rassurer la population, faire de l'intervention, mais également, vraiment, j'ai envie de vous dire, là, courir après celles et ceux qui ont des armes entre les mains. Et à ce sujet, laissez-moi juste vous dire quand même que l'escouade Delta, qui est très efficace, on parle déjà d'une trentaine de perquisitions. Il y a 350 armes qui ont été sorties des rues en ce moment. Donc, je pense aussi qu'il faut reconnaître le travail. C'est pour ça que je suis assez en désaccord avec de baisser les bras. Tu sais, quand on dit que Montréal est dangereux, je trouve qu'on vient dénigrer le travail des policiers policières et de tout le monde qui travaille très, très fort
pour trouver des solutions. Monsieur Coderre,
moi, j'ai parlé encore avec des policiers hier puis qui me remercient de dire enfin, on est capable de reconnaître qu'il y a un problème à Montréal. Puis pas juste à Montréal, dans le Grand Montréal. Puis on veut pas ressembler à Toronto, mais on n'a pas travaillé pour s'assurer qu'on devienne pas comme Toronto. Alors, si on veut guérir le problème, il faut commencer par le reconnaître. Là. Alors, moi, là, ce matin, je dis aux policiers, on va vous redonner votre ADN. On a l'impression aussi qu'on est à la remorque souvent de la Sûreté du Québec et puis qu'il y a des techniques de la Sûreté du Québec à Montréal. Donc, on va vous donner les outils. Je vous comprends. On est capable de travailler ensemble. On a l'équipe qui croit à la sécurité dans un modèle aussi de prévention. On peut travailler en collaboration puis en symbiose avec le milieu communautaire. Mais avant toute chose, il faut redonner les lettres de noblesse aux policiers. Les policiers, présentement, n'ont pas confiance parce qu'ils ont l'impression qu'on les traite comme si c'était le problème. Et pour moi, ce qui est aussi important, c'est de se dire que les policiers ont besoin des outils pour travailler, mais on ne doit pas juste les définir comme étant des éléments de répression. Ils font partie de la solution okay. aussi au niveau
Monsieur
de la prévention.
Si vous me permettez, étant donné oui. que M. Coderre a fait de la désinformation concernant en disant que notre parti souhaite faire du définancement, je tiens à, vous savez, M. Prosper était devant vous et il a affirmé haut et fort que c'était pas, ce serait ni le responsable de la sécurité.
Mais il a déjà dit le contraire. Ouais. Ah non, mais sur la question de fond,
oui,
il a déjà dit le contraire.
Oui, exactement, il okay. était devant vous. Donc là, je pense que ça suffit là, de faire de la désinformation. Non seulement c'est okay. pas l'intention, nous, on n'a pas définancé pendant notre mandat et on vient d'assurer pendant les quatre prochaines années. Dernière chose, vous savez, je trouve ça particulier quand M. Coderre parle ouais. du président du syndicat des policiers et policières. Je pense que j'aimerais ça rappeler que comme mairesse, mon vis-à-vis, moi, c'est le chef de police. Alors, je ne vais pas jouer dans le dos du chef de police en faisant des sweet deals avec le président du syndicat. Là. C'est important de regarder...
Le directeur
regarder,
de police va être content que la mairesse veuille lui parler. Mais moi, je
le
pense
directeur
que
de la police, je lui parle tous les jours, M. Coderre. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Je vous ai laissé me parler, Mme Plante. Je pense qu'il faut être respectueux dans un débat. Je vous dirais que dans un premier temps, ce qui est clair, c'est que quand... Regardez tout ce qui s'est passé dans les quatre dernières années. Regardez les motions qui passent du côté de Projet Montréal. Moi, j'ai pas de problème avec les vocations tardives, mais la réalité du terrain démontre totalement le contraire présentement. Puis qu'on me dise où est-ce que j'ai coupé, ça va me faire plaisir d'y répondre.
Ben, je vais vous le répondre. C'est 30 % dans l'escouade anti-gang, M. Coderre. C'est écrit noir sur blanc, même si vous dites le contraire. Mais ceci étant dit, moi, je pense que les citoyens vont se faire une idée en
conclure.
Voyant les deux différents okay. styles.
Merci beaucoup à tous
Merci.
Les deux d'être venus.
Merci
On va
beaucoup.
Se retrouver, j'imagine, d'ici la
oui,
date du scrutin. Valérie Plante, mairesse de Montréal, Denis Coderre, candidat de Ensemble Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien. Alors, on sait tous que les deux Michael détenus pendant plus de 1020 jours par les autorités chinoises ont été libérés, sont revenus au Canada. Leur libération qui s'est effectuée quelques heures seulement après celle de Meng Wanzhou, l'héritière du géant Huawei. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle un échange de prisonniers politiques. Je détiens deux Canadiens, vous détenez une Chinoise, puis on fait un échange. Et bien sûr, ce qui s'est passé depuis les derniers mois a un impact direct sur le type de relation entre le Canada et la Chine. Pour en parler ce matin, Jean-François Lépine, qui a été directeur du bureau du gouvernement du Québec en Chine. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Comment t'as interprété donc la libération des deux Michael vendredi soir?
Ben d'abord, moi, autant on doit se réjouir de ce qui se passe pour ces deux personnages-là qui ont été pris dans un conflit où ils n'avaient aucune responsabilité, aucune... Et même le Canada, d'ailleurs, a été pris dans une histoire un peu malgré elle, qui était un enjeu entre les États-Unis et la Chine. Mais moi, ce que... Tu sais, quand vous venez de dire, on assiste... C'est comme un échange de prisonniers politiques. Moi, honnêtement, ce que j'ai retenu de tout ça et ce qui est le plus important, c'est que c'est en fait un échange d'otages. Les deux Canadiens ont été littéralement pris en otage dans un conflit entre les États-Unis et la Chine qui, dans lequel le Canada a joué un rôle un peu forcé, qui n'aurait peut-être pas dû jouer. Et toute la technique des prises d'otages, ce qu'on appelle la diplomatie des otages, pour une grande puissance comme la Chine qui appelle constamment à l'entraide et la coopération sur les grands enjeux de la planète, c'est une reconnaissance là, en remettant les deux otages au moment où Mme Meng Wanzhou est libérée. Les Chinois confirmaient qu'ils avaient arrêté ces deux personnages-là que pour mettre pression. Et ça, si on se met à faire ça, ça devient extrêmement dangereux à l'échelle de la planète.
Mais Jean-François, pour ceux qui avaient des doutes, on a la confirmation que la Chine n'est pas un État de droit. On a arrêté les deux Michael. Ils ont eu droit à des procès. On les a fait parader. Et après ça, on les libère. Et tu me corrigeras, mais l'argumentaire chinois, c'était de dire on se fout de vos lois au Canada. Vous avez juste à la libérer puis à lui permettre de revenir en Chine.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a... à l'origine, a arrêté ces deux personnages-là, les deux Michael, 9 jours à peine après qu'on ait arrêté ici de façon complètement ouverte et transparente Mme Meng, en vertu d'un accord d'extradition qu'on avait avec les États-Unis, c'était une demande américaine. Immédiatement, la Chine a réagi en arrêtant deux personnes. Et vous dites, on les a fait parader. En fait, on les a jamais vus. Ils ont été enfermés pendant 1020 jours. Ils ont été, on sait qu'ils ont subi 6 mois d'interrogatoire, extrêmement difficile, lumière allumée 24 heures par jour, des conditions absolument inacceptables. Si ça avait été simplement une question de diplomatie, par exemple, ou si ces gens-là avaient même été vraiment coupables de ce qu'on les accusait. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais la Chine, un journal chinois lié au gouvernement chinois, a dit officiellement, parce qu'ils n'avaient pas commenté la libération des deux Michael, ils ont dit que les deux Michael avaient accepté de reconnaître leur crime, mais qu'ils ont été rendus au Canada parce que leur état médical le justifiait. Alors, c'est une confirmation de la part de la Chine qu'ils ont agi complètement arbitrairement. C'est comme si, imaginez-vous, c'est comme si au Canada, là, on avait une entreprise canadienne qui était prise dans une situation délicate en Chine et que pour obtenir la libération, disons, de ces Canadiens-là, on arrêtait deux Chinois au Canada, qu'on les détenait en prison de façon sans leur permettre d'avoir leur propre avocat, sans leur permettre de communiquer avec leur famille ou l'extérieur pendant plus de 1000 jours. Imaginez-vous la réaction que ça causerait à l'échelle de la planète. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait dans le monde une réaction à ce qui vient de se passer. Le Canada dit qu'ils vont travailler sur un accord d'une convention internationale contre la prise d'otages, mais la Chine, ce n'est pas la Somalie, par exemple. Ce n'est pas le Liban des années 70. La Chine, c'est une grande puissance qui s'apprête à devenir la première puissance mondiale. Si elle procède comme ça, imaginez comment d'autres pays vont l'imiter dans le monde. La Chine est un modèle pour beaucoup de pays. Et donc, c'est extrêmement important pour le Canada, puis pour les États-Unis, pour les pays occidentaux, de soulever cette question-là, puis d'aller plus loin, et de forcer la Chine à vraiment revoir ses pratiques.
Jean-François, il y a un auditeur qui est propriétaire d'une entreprise qui, en temps normal, se rend en Chine 3, 4, 5 fois dans une année pour le travail. Depuis le début, depuis l'enlèvement des deux Michael, il se dit, est-ce que je peux devenir, parce que je suis un étranger, je suis un Canadien, je vais me faire moi aussi arrêter de façon arbitraire, injuste, et être détenu dans des conditions abominables. Il y a comme une nervosité, dit-il, de certaines personnes qui font affaire avec les Chinois.
Ouais, la nervosité, elle est justifiée, Paul. Moi, je viens de passer 5 ans de ma vie là à dire aux entreprises québécoises, venez en Chine, c'est le plus grand marché au monde. C'est le pays des opportunités pour vous si vous avez des produits extraordinaires. Et Dieu sait s'il y en a des produits extraordinaires au Québec. Bien avant même la conclusion de l'affaire des deux Michael, je disais de plus en plus, écoutez, je ne sais pas si je recommanderais autant aux entreprises de venir en Chine. Je pense que c'est important d'y être, mais il va falloir prendre des mesures. Et c'est pour ça qu'il faut que le Canada pose ces questions-là aux dirigeants chinois. Est-ce qu'on veut continuer à faire du commerce? Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce que nos entrepreneurs peuvent, de façon sécuritaire, venir en Chine? Pendant plusieurs mois, depuis l'arrestation les deux Michael, le gouvernement canadien, puis c'est ce que nous, du Québec aussi, on disait aux entrepreneurs, continuez à venir en Chine, c'est important, il y a des opportunités pour vous, mais prenez des mesures, c'est-à-dire, soyez en contact avec l'ambassade du Canada, les consulats du Canada, les bureaux du Québec en Chine, dites-nous là où vous êtes, ce que vous faites, et surtout, ne contournez pas la loi. Si vous contournez la loi, vous prêtez flanc à une justice chinoise qui n'est pas une justice transparente. Et comme vous dites, vous risquez des conditions dans lesquelles vous aurez beaucoup, beaucoup de difficultés à vous défendre. Et nous-mêmes, on ne pourra pas vous aider. Moi, j'ai un ami québécois qui est un entrepreneur québécois qui est, depuis plusieurs années, qui est littéralement pris en Chine. Il ne peut pas sortir de Chine parce qu'il a un différend avec d'anciens partenaires commerciaux. Et le gouvernement chinois a inscrit dans son passeport une mention qui indique que dès qu'il arrive, dès qu'il veut sortir de Chine, Les policiers lui disent non, tu retournes chez toi, tu restes en Chine tant que l'histoire n'est pas réglée. Donc, c'est un climat effectivement extrêmement délicat, mais on peut pas se passer d'un partenaire commercial aussi important que la Chine. Donc, c'est un dilemme. C'est un dilemme très important.
Jean-François, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience, évidemment, puis d'avoir pris le temps ce matin. Bonne journée.
Merci, Paul.
Au revoir. Jean-François Lépine, qui a été directeur des bureaux du gouvernement du Québec en Chine.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je veux aborder un autre cas parce que beaucoup d'auditeurs touchés m'ont écrit en fin de semaine. On a appris qu'il y a une entente hors cours qui est intervenue dans le cadre d'un, ce qu'on appelle un recours collectif, une action collective déposée par Option Consommateur contre Meubles Léon, Brick, Brault et Martineau, Economax et Ameublement Tanguay. C'est la fameuse pub « Acheter maintenant, payer plus tard ». Il y avait des pubs qui allaient à l'encontre des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Donc, un règlement d'à peu près 1 500 000, là. Et beaucoup de gens se disent, mais comment se fait-il qu'on reçoit pas un sou? Pourquoi les victimes de ces magasins d'ameublement sont pas dédommagées directement? Sylvie de Bellefeuille est avocate chez Options Consommateurs. Madame de Bellefeuille, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Alors, la question est simple. Pourquoi les gens qui se retrouvent dans cette action collective sont pas dédommagés?
Ben, en fait, la question est purement mathématique. Ce qui se passe, c'est que dans ce recours-là, là, vous l'avez mentionné, le montant total là, du règlement est de 1,4 million à peu près, là, et on a quelque chose comme 700 000 membres. Donc, mathématiquement, ça veut dire 2 piastres par personne. Et là-dessus, il faut qu'on enlève les frais d'avocat. Donc, c'est juste pas possible de faire une distribution aux gens directement. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi dans cette situation-là plutôt d'indemniser des membres indirectement en remettant l'argent à une fondation qui est la Fondation pour les consommateurs qui, elle, va redistribuer l'argent auprès d'organismes comme des ACEF qui viennent en aide aux gens qui ont des difficultés financières.
On comprend que l'objectif premier, là, au-delà du dédommagement, c'était de faire casser cette pratique commerciale.
Exactement. Pour nous, c'est une bataille là, qui dure depuis un certain temps. On avait une autre action collective qui s'est terminée là, par des jugements qui visaient à ce moment-là Léon et qui est venu confirmer que notre interprétation de la loi était la bonne. C'est-à-dire qu'on peut pas, dans une publicité sur un bien, faire à la fois des détails sur des plans de financement. Tout ce qu'on a le droit de dire, c'est plan de financement disponible. Si on veut faire de la publicité sur des modalités de plan de financement, on ne peut pas présenter des biens. Donc, c'est vraiment deux articles, deux types de publicité différentes. Et malgré ça, ben, les pratiques ont continué. Alors, notre objectif ici, c'était pas vraiment... quand vous parlez de victimes, à ce moment-là, on n'est pas dans une situation où il y a eu de la fausse représentation, où il y a eu de l'argent qui a été pris indûment des consommateurs. C'est pas ça du tout. Ici, ce qu'on cherchait, c'était vraiment des dommages punitifs pour dire, dans le fond, pour taper sur les doigts des entreprises qui ne respectaient pas leurs obligations en matière de publicité. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on avait de ce dossier-là.
Parce que l'image qu'on a, l'exemple, là, c'est je t'annonce un spécial, puis je t'explique que tu n'as rien à payer avant 1 an, par exemple, ou 18 mois, ou 24 mois. Ce qui faisait souvent, je pense, des achats impulsifs, là.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est dans le fond la tâche de ces. Ça faisait partie du modèle d'affaires de ces entreprises-là. Et selon nous, c'est ça qui n'était pas acceptable. Okay. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que avant même de s'asseoir à la table de négociation, nous, ce qu'on a dit, ben changez vos pratiques. À partir de là, ben on pourra discuter et ces entreprises-là ont accepté de se conformer et de changer leurs pratiques. Alors, pour nous, le gain principal pour les consommateurs, ben c'est qu'à ce moment-là, les pratiques sont conformes à la loi. Là.
À votre connaissance, est-ce que ça arrive souvent que les règlements sont pas assez élevés pour permettre une distribution aux gens qui sont membres de ce recours collectif?
Ben, tout dépend toujours de l'action collective. C'est chaque cas est différent. Hein. Donc, c'est difficile à dire, mais c'est pas inhabituel en soi qu'il y ait des montants qui soient versés à des organismes. Parfois, c'est une partie. Parfois, ça peut être l'ensemble. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais ici, comme je vous dis, c'est juste pour la gestion d'un genre d'un dossier comme ça, quand on veut émettre des chèques aux gens, là, les gestionnaires, ils chargent quelque chose comme au-delà de 3 $ par personne.
Ouais.
Donc, mathématiquement, on n'y arrive pas. Là.
C'est clair. Merci, Mme de Bellefeuille.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Sylvie de Bellefeuille est avocate pour Option Consommateur.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.